est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, cap sur la Grèce aujourd'hui dans Accent d'Europe, un pays encore à genoux il y a 5 ans et qui semble renaître de ses cendres avec un taux de croissance de 2%. Son économie peut faire des envieux au sein de la zone euro et le pays emprunte désormais à 10 ans sur les marchés à des taux comparables à ceux de l'Italie. Mais cela n'a pas été sans mal et sans sacrifice. Petit point sur les 3 plans d'aide européens accordés notamment par le mécanisme européen de stabilité. Un nouvel organisme créé en 2012 pour soutenir les pays de la zone euro, emportés par la spirale de la dette. Explication depuis Bruxelles de Lax Milota.
L'aide financière accordée par le mécanisme européen de stabilité à la Grèce s'élève à 62 milliards d'euros. En 8 ans, le pays a bénéficié de plus de 273 milliards d'euros d'assistance de la part de ses créanciers, zone euro, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international au cours de 3 programmes d'aide. En contrepartie, les Grecs ont dû mettre en œuvre plusieurs centaines de réformes drastiques. Leur niveau de vie s'est effondré. Les retraites ont baissé plus de 10 fois depuis 2011. Dans certains cas, elles ont été divisées par 2. Le pays a reçu son dernier versement en août 2018, mais il reste sous étroite surveillance. Pour s'assurer du respect des engagements de la Grèce, la Commission européenne maintient un contrôle financier jusqu'à ce que 7% des prêts soient remboursés. Des missions d'évaluation sont régulièrement envoyées dans le pays, dernière en date le mois dernier. La Grèce est aujourd'hui lourdement endettée à hauteur de 289 milliards d'euros. Ce n'est qu'à partir de 2032 que le pays commencera à rembourser la plus grosse partie de son emprunt. Il aura jusqu'en 2069 pour le faire.
Autant dire que ces aides ont eu un prix, l'austérité imposée par ce qu'on appelle la Troïka, à savoir la Commission européenne, la BCE et le FMI. Les Grecs n'ont pas pardonné aux dirigeants du parti d'extrême-gauche Syriza, Alexis Tsipras, d'avoir continué cette politique drastique de réduction des dépenses publiques. L'été dernier, les électeurs ont donc choisi de mettre à la tête du gouvernement le parti de droite Nouvelle Démocratie et son leader Kyriakos Mitsotakis, un virage à droite, qui s'accompagne d'un désenchantement certain à Athènes, Joël Bronard.
C'est sans véritable enthousiasme populaire que les conservateurs de Nouvelle Démocratie ont retrouvé le pouvoir en Grèce l'été dernier. Les électeurs sont surtout fatigués, désabusés par près d'une dizaine d'années de crise. À l'image de Dimitris Kavagianis, un ingénieur au chômage de 41 ans, croisé un jour de manifestation.
Par le passé, nous avions deux partis principaux qui exerçaient alternativement le pouvoir. Puis, plus récemment, nous avons eu Syriza, un nouveau parti, entre guillemets. Et nous voilà maintenant de retour avec Nouvelle Démocratie, l'un des vieux partis. Un parti qui était déjà au pouvoir entre 2012 et 2015. Ce sont les mêmes politiques qui se poursuivent, rien ne change. Cela fait plusieurs décennies que nous voyons comment ces partis fonctionnent. Ce sont les mêmes anciens visages, avec les mêmes vieilles recettes politiques. Nous n'attendons rien de neuf de ce gouvernement.
Malgré le scepticisme d'une partie des électeurs grecs, la victoire de Nouvelle Démocratie a été nette. Le parti conservateur a engrangé près de 40% des suffrages face à 31,5% pour le parti sortant d'Alexis Tsipras. Face à eux, le centre-gauche, incarné par le PASOK, a été progressivement laminé à partir de 2012 et le mouvement néo-nazi Obdoré a vu ses résultats électoraux s'effondrer après l'assassinat d'un rappeur grec par un sympathisant. Piloté par la nouvelle équipe, le virage à droite n'a pas tardé. En octobre, un éventail de mesures pour rendre le marché du travail plus flexible a été voté. Les entreprises peuvent désormais se soustraire à une partie des conventions collectives sur les salaires et les administrations locales faire appel au privé pour effectuer leurs missions de service public. Le droit de grève, lui, est davantage encadré et requiert notamment un seuil de grévistes minimum. De quoi réjouir le patronat grec. Pour le monde des affaires, qui jugeait la gauche radicale incompétente, le retour au pouvoir de Nouvelle Démocratie est en effet une excellente nouvelle. Nikos Vernikos, armateur, est président de la Chambre de commerce internationale en Grèce.
L'euphorie est revenue en Grèce à cause
de la qualité de la gouvernance. La crise n'est pas terminée, mais on a les fondements pour en sortir et on a de nouveau l'espoir. Et pour qu'on sorte, il faut des investissements et des Grecs et des étrangers pour créer des emplois, pour créer un développement économique qui va nous permettre de payer nos dettes à nos confrères européens qui nous ont aidés pendant les années difficiles.
Des investissements étrangers que le gouvernement conservateur ne cesse d'appeler de ses voeux, comme en novembre à Shanghai, en Chine, par la voix du Premier ministre Mitsotakis.
Mon gouvernement a été élu en juillet dernier avec une majorité absolue et un mandat clair. Restaurer la croissance, attirer les capitaux étrangers et garantir un environnement économique favorable aux affaires.
En parallèle, d'autres mesures pro-investissement ont été mises en place ou vont l'être au cours de cette année, comme la baisse de 4% de l'impôt sur les entreprises, qui passera ainsi de 28% à 24%. Pour les particuliers, une baisse de la taxe foncière devrait être suivie d'une diminution progressive de la TVA et de l'impôt sur le revenu à partir de 2020. Eleni Galanopoulou est enseignante. Les promesses de baisse d'impôts ont convaincu ses parents de voter Nouvelle Démocratie. De son côté, la trentenaire qui avait soutenu Syriza 5 ans plus tôt dit s'en être mordu les doigts et l'été dernier, elle a voté à droite pour la première fois.
J'avais le sentiment d'une impasse, comme si on ne pouvait plus avancer. Je trouvais que Tsipras ne faisait plus rien. J'ai donc voté pour Mitsotakis, même si je ne partage pas toutes ses idées sur l'éducation ou la santé, des secteurs que je ne veux pas voir privatisés. Mais je voulais voter pour quelqu'un qui puisse faire bouger les choses.
En Grèce, l'actuel coup de volant à droite ne concerne pas que l'économie. La pression migratoire et le regain du nombre de demandeurs d'asile en provenance de Turquie depuis cet été sont l'un des autres principaux défis de la nouvelle administration. Sur ce point, une réforme du droit d'asile a été mise en place à l'automne. Facteurs de vulnérabilité moins pris en compte, rejet des demandes pour vice de forme facilité ou encore allongement de la durée possible de détention sont autant d'illustrations d'une volonté de multiplier les renvois de ressortissants étrangers et d'un durcissement au sommet de l'État grec.
La Grèce toujours en première ligne dans la gestion des migrants qui arrivent sur le sol européen. Ils étaient 45 000 cette année à arriver dans le pays, soit près de 20 fois moins qu'en 2015, et ce en vertu d'un accord passé avec la Turquie qui doit empêcher les départs depuis ses côtes, mais aussi parce qu'un accord européen a créé des centres de tri, des hotspots sur les îles grecques. Ceux qui peuvent prétendre au statut de réfugiés peuvent rester, les autres doivent repartir, mais c'est quand débordent, ils doivent être remplacés par de plus grandes structures. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un documentaire. Il donne la parole à une poignée d'habitants de Cléio, un petit village au nord de l'île de Lesbos, justement. Comment ont-ils vécu l'arrivée des migrants ?
Alors le film s'appelle En face, il a vu le jour au sein d'un collectif qui s'appelle lui Cinémakia, fondé pour l'occasion par 8 amis français et ou grecs qui souhaitaient donner justement la parole à ceux que l'on a peu entendus et qui étaient les premiers confrontés à cette réalité des réfugiés, les habitants de Lesbos. Le résultat nous plonge dans le quotidien de ces villageois qui réagissent chacun à leur manière au bouleversement que connaît l'île. On écoute un extrait tourné à la taverne du village et la réaction de l'un des co-réalisateurs, Eden.
Nous sommes tous des réfugiés par nos parents, donc nous les aimons les réfugiés. Mais souvent nous avons peur d'eux. Pourquoi ? Il y a un an ou deux, ils venaient à 5, 10 ou 12 dans le moulin à huile où je travaille, parce qu'il est à l'entrée du village. On leur donnait un verre de lait, une tranche de pain avec de l'huile, pour qu'ils reprennent des forces. On les réchauffait et ils repartaient. Mais maintenant ce sont 200 ou 300 personnes qui montent à la fois. On ne peut rien faire pour tous ces gens. Alors on a peur, on se demande où ils vont aller, et c'est pour ça que le village s'est scindé.
Je pense que c'était quand même une volonté de montrer que c'était pas blanc ou noir, de montrer que l'acte d'accueil il est toujours compliqué, et de pas avoir ni un récit enchanté, ni au contraire un récit dénonciateur, et d'essayer de refléter ce que nous on avait perçu sur le terrain, à savoir à la fois du rejet et à la fois une volonté d'accueil face à quelqu'un qu'on connaît pas, face à l'étranger, etc. et de montrer du coup la difficulté que représente l'acte d'accueil.
Le film s'ouvre sur un discours de rejet et puis il gagne en complexité.
Oui, c'est justement ce que nous raconte Lucia. Elle a aussi participé à l'élaboration de ce film et elle est membre du collectif Cinémaquia.
Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était de voir comment des villageois, eux-mêmes pris dans des difficultés économiques terribles de la situation grecque à ce moment-là et puis aujourd'hui aussi, notamment un des personnages du film, par exemple, passait presque tous les jours pendant les arrivées massives de 2015 sur la côte à faire signe aux bateaux pour les aider à arriver par des chemins un peu sûrs et ensuite pour récupérer bâches, moteurs, tout ce qui pouvait être récupéré, revendu. Et ces mêmes personnes-là qui essayaient en fait de trouver une sorte d'avantage économique aussi à tout ce drame humain, se retrouvaient de facto à aussi sortir des personnes de l'eau, essayer d'éviter qu'elles se noient.
Les deux réalités cohabitent donc, la joie soudaine, puis la détresse, le lendemain, la vie, la mort, l'espoir et la déception. Certains villageois sont vraiment touchants, à l'image de cette dame qui a pris soin de donner des vêtements chauds à tous ceux qui reprenaient la route vers le nord de l'Europe.
J'ai tricoté des bonnets tout l'hiver pour les enfants, pour être sûre d'en avoir assez pour tous ceux qui défilaient du matin au soir. J'ai dû en tricoter une bonne centaines. On a vu ces bonnets à la télé à Berlin. J'ai dit à Panayotis, regarde ce petit bonnet, c'est moi qui l'ai tricoté. Regarde sur la tête du bébé.
Et finalement, Eve, chaque citoyen européen peut se reconnaître un petit peu dans ces portraits.
Oui, aujourd'hui, même si la situation a largement évolué, les îles grecques ne sont plus des points de passage hein, vers le nord de l'Europe. Les migrants sont détenus, vous l'avez dit, dans des camps surpeuplés, des hotspots, en attendant que leur demande d'asile soit étudiée et le cas échéant de repartir vers la Turquie, comme le prévoient les accords signés avec l'UE en mars 2016. Mais cela ne décourage pas les migrants qui sont encore 10 000 par mois à arriver sur les côtes grecques. Le film a le mérite de s'emparer de la question de l'accueil du point de vue des citoyens européens. Il sera d'ailleurs projeté cet été à Cléio sur la place du village devant tous ses protagonistes ainsi qu'au festival du film de Douarnenez en France et de Tétouan au Maroc et sur les plateformes de diffusion comme Tank et Spicy si tout va bien dans les semaines qui viennent.
Merci Eve Mino.
À bientôt.
Et Alexis Tsipras, dans tout ça, l'ancien Premier ministre avait soulevé une vague d'espoir dans le pays lorsqu'il était arrivé au pouvoir il y a 5 ans. Paradoxalement, le leader de la gauche radicale aura été le meilleur élève de Bruxelles, appliquant une à une les réformes souhaitées par l'Europe. Le journaliste Fabien Perrier vient de publier une biographie, Alexis Tsipras, une histoire grecque. Léa Lisa Westerhoff lui a demandé comment avait été perçue cette promesse de changement en 2015.
Ce vent d'espoir, il existe aussi sur la scène européenne puisque, en fait, à ce moment-là, en 2015, il y a en France le Front de Gauche qui a un peu le vent en poupe, il y a Podemos en Espagne qui a le vent en poupe aussi, bref, différents partis se sentent portés et espèrent capitaliser sur cette victoire de Syriza. Mais on a vu que c'était une victoire limitée parce que très vite, Alexis Tsipras va être obligé de souscrire aux politiques imposées par l'Union européenne, soit ça, soit quitter l'euro, dont il dit lui-même que pour la Grèce, c'eût été une catastrophe.
Il a été victime des exigences de l'Union européenne, selon vous ?
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il arrive à la tête du pays dans un rapport de force qui lui est extrêmement défavorable. Il y a très peu de dirigeants européens qui croient, entre guillemets, dans le succès possible sur le plan pratique d'Alexis Tsipras. Tous craignent qu'il déstabilise l'Union européenne. Ils n'ont comme seul mot que respecter les mémorandums qu'ont signés vos prédécesseurs. C'est exactement ce que l'on voit du 25 janvier 2015 à la signature du mémorandum en juillet 2015.
L'une de ses promesses phares était l'arrêt immédiat de l'austérité. Alexis Tsipras a réussi.
Il a d'abord signé un mémorandum qui continuait à imposer l'austérité en Grèce. Sauf que dans les faibles marges de manœuvre dont il disposait, il a réussi à instaurer, par exemple, des minima sociaux pour les familles les plus défavorisées, à rendre la cantine gratuite dans les écoles, etc. Donc, il y a eu une forme de politique sociale. Deuxième chose, dès que en août 2018, la Grèce est sortie des mémorandums, qu'a fait Tsipras ? Il a augmenté le salaire minimum moins qu'il l'avait promis en 2015, mais il a augmenté d'un peu plus de 100 euros, par exemple. Il a réintroduit des conventions collectives. Bref, il a tardé à l'allumage de la politique sociale, mais il a essayé d'en appliquer une. La conséquence, c'est qu'il a perdu les classes moyennes, ce qu'on a vu aux élections de juillet 2019. La première catégorie de population qui s'est dégagés de Syriza, qui a voté pour Nouvelle Démocratie, ce sont les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui ont été les premières victimes de la crise, qui ont eu d'un seul coup le plus d'espoir pour Syriza, mais qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir été servis, notamment sur le plan fiscal, par Syriza.
Alexis Tsipras, une histoire grecque est publiée aux éditions François Bourin. Et on terminera notre émission au Kosovo, ce petit pays des Balkans coincé entre la Serbie et la Macédoine du Nord, qui n'est toujours pas reconnu par 5 membres de l'Union européenne. Les jeunes Kosovars ont toujours l'obligation de faire une demande de visa pour se rendre en Europe. Autant d'obstacles qui pèsent lourdement sur cette jeunesse en quête de mobilité. Reportage à Pristina de Louis Seyé.
Des photocopies dans les mains, Harris sort d'une petite papeterie et s'allume une cigarette. C'est dans le froid que ce jeune transporteur routier doit patienter devant l'ambassade de Grèce. À seulement 22 ans, c'est la cinquième fois qu'il se rend dans le quartier des ambassades de Pristina pour déposer une demande de visa.
Il y a différents types de visas, le visa d'affaires, le visa touristique et le visa de travail. Moi, pour mon visa de travail, je n'ai pas trop de problèmes, mais pour les autres, c'est plus compliqué. Il faut une bonne somme d'argent sur un compte bancaire, des documents qui montrent qu'on est en règle avec l'État, la police, et puis d'autres formalités et procédures que je ne connais même pas.
À quelques centaines de mètres de là, des dizaines de personnes font la queue devant une agence spécialisée dans l'obtention du visa Schengen. Spetim sort de l'agence avec un document. Ce trentenaire aux yeux sombres a du mal à cacher sa déception.
J'avais déposé une demande de visa touristique pour aller voir ma famille qui vit en Suisse. C'était la première fois. Ma demande était bien remplie. Mais là, ils m'ont refusé le visa. Et ils ne m'ont pas dit pourquoi. Ils ne m'ont donné aucune explication. Je ne sais pas.
Des étoiles blanches et la forme jaune de l'État sur un fond bleu. À l'image de son drapeau, le Kosovo est tourné vers l'Union européenne. Mais vu de Pristina, l'UE, c'est encore bien loin. 12 ans après l'indépendance du pays, voyager librement sur le continent reste toujours un rêve pour les 2 millions de Kosovars.
Nous sommes le seul pays de la région dont le passeport ne permet pas d'aller à l'étranger. En un mot, on est un pays isolé et c'est vraiment dur. Bien sûr, l'une des raisons principales, c'est notre gouvernement incapable et qui nous a isolés. Mais l'Union européenne non plus ne nous a pas traités correctement.
La fin des visas pour les 26 pays de l'espace Schengen, c'est ce que promettent depuis des années les diplomates de l'Union européenne aux Kosovars. En juillet 2018 et pour la deuxième fois, la Commission européenne avait recommandé la levée des visas. Mais depuis, rien n'a changé. Certains États membres, comme l'Espagne ou la Roumanie, bloquent toujours sur la reconnaissance de cette ancienne province serbe. Dans ce pays où 65% de la population a moins de 30 ans, cet isolement forcé crée un profond ressentiment. Surtout que les pays voisins, comme la Serbie, la Bosnie ou l'Albanie, ont obtenu cette fin des visas il y a déjà 10 ans. Le politologue Agon Malici.
Les Albanais de la région sont les plus pro-OTAN, pro-UE. Ils jouent un rôle constructif en matière de politique régionale sur tous les sujets. Et donc il y a ce sentiment qu'ils ne sont pas récompensés de manière significative pour cette orientation, ce rôle de stabilisateur dans les Balkans.
Sans le dire officiellement, certaines capitales européennes redoutent que cette levée du visa Schengen ne pousse la jeunesse kosovare à émigrer illégalement. À moins qu'il révèle plutôt des préjugés sur ce pays majoritairement musulman. Obtenir enfin ce droit de voyager librement en Europe, ce sera en tout cas l'un des principaux objectifs du nouveau Premier ministre de gauche du Kosovo, en poste depuis une semaine et porteur de nombreux espoirs.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.